Notre mère Labeaume a un drôle de comportement ces temps-ci. Particulièrement aujourd'hui, il a fait quelque chose qui nous semble étrange. Je t'explique, OK? 8h40 ce matin, convocation pour le phare. Le phare, c'est le projet d'une tour de 60 étages, à l'intérieur desquels il est censé y avoir une salle de spectacle.
Un projet pharaonique.
Absolument, absolument. Puis le tramway qui passe par là, puis etc. C'est un gros, gros, gros projet. 8h40, convocation pour une conférence de presse à 10h. Fait que tu te dis, bon, ils vont annoncer des consultations plus tard, puis c'est tout. Pas en tout. Jonathan est allé en vitesse, en triple vitesse. Et Jonathan, tu t'es ramassé inondé de documents.
Regardez, on va parler de la forme avant de vous parler du fond, parce que le fond, ça va être difficile pour la simple et unique raison qu'on nous a garoché beaucoup, beaucoup d'informations en très peu de temps. Au total, on nous a remis 5 fiches synthèges différentes sur 5 études qui ont été réalisées par la Ville de Québec, même 6 fiches au total. On parle de l'impact de la circulation, ensuite de la valeur des propriétés unifamiliales à proximité, de l'impact sur le marché résidentiel, de l'impact fiscal du projet du phare, de l'analyse économique et ensuite de ça, de l'impact sur le marché des bureaux à Québec. Et là, on nous a dit, regardez, après, au terme de 20 minutes de conférence de presse, emmenez vos questions. Et là, vous comprendrez qu'on était un peu estomaqués de savoir ça, parce que pour des histoires qui sont beaucoup plus banales, je vous donne par exemple, il y a eu déjà un huis clos technique qui nous a été fait, donc une séance lors de laquelle on nous explique ce qu'il en retourne réellement. Et on avait fait ça pour le dossier du troisième lien, l'impact d'un troisième lien à l'Est. Et là, pour le phare, qui est un des projets majeurs, parce qu'on va aussi tout réaménager ce secteur-là, et j'en viendrai un peu plus tard à vous dire ça, là, on n'a pas eu droit à ça et on nous a garoché toute cette information-là en nous disant, ben maintenant on est ouvert à répondre à vos questions. Alors je vous invite peut-être à écouter ce que ça donnait comme échange entre les journalistes et le maire Labeaume un peu plus tôt.
Il y a énormément de questions, mais j'en ai pas présentement parce que je vois mal comment on pourrait poser des questions sur un projet de cette ampleur-là sans avoir eu de briefing technique avant. Je suis désolé, mais c'est beaucoup d'informations ce matin, surtout qu'on a eu la convocation à 20 minutes, une heure d'avis. Alors merci.
C'est pas la première fois qu'on en parle, là.
Je veux revenir sur ce que mon collègue mentionnait. Pour des projets des fois plus petits à la Ville de Québec, vous nous faites des séances d'information technique. Et pour un projet, pour celui-là, qui est un projet majeur, vous n'en faites pas. Pourquoi?
Oui, mais je pense que c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Ça fait plusieurs fois. C'est pas un nouveau projet, là.
Mais c'est la première fois que vous nous arrivez avec autant d'études, avec autant d'informations.
Mais il va y avoir des séances d'information. Écoutez, c'est pas la première fois qu'on en parle. J'étais un peu surpris un matin. Là.
Bonjour, je vais quand même seconder mon collègue qui a signalé que c'est peu de temps pour prendre connaissance de toutes ces fiches synthèses.
On est là toute la journée pour répondre à toutes vos questions.
Ben, là, vous êtes là, puis on a l'occasion, mais on n'a pas nos questions. C'est trop court pour prendre connaissance d'une fiche synthèse sur la circulation, sur l'impact,
sur l'analyse économique. Prenez connaissance de ça, puis appelez-nous.
Voyez?
Appelez-nous.
Mais pourquoi ils les ont pas envoyés avant?
Jonathan, avec tout le respect sincère que j'ai pour toi, moi, là, c'est pas tant de journalistes qui sont pas contents de l'heure qui ont été convoqués puis qui ont trop d'informations avant qu'on puisse poser des questions puis blablabla. Je te le dis, là, je suis d'abord un journaliste, ensuite j'ai fait toutes sortes d'autres choses dans la vie, dont consultant auprès de gens comme Régis Labeaume. J'ai jamais travaillé avec lui, là, que ce soit bien clair, mais comme Régis Labeaume, là. Puis ce genre de blabla de journaliste qui a accompagné tout le régime de Stephen Harper, laisse-moi finir, je vais vous laisser la parole ensuite. Je trouve que ça tape sur les nerfs des gens, ça tape sur les miens, entre autres, et Harper a jamais perdu un vote à cause de ça.
Je suis d'accord avec toi, Luc, sur ce point-là. Par contre, je voudrais te dire, moi, mon travail, et de façon consciencieuse, c'est d'emmener de l'information que je vais avoir pu vérifier, que je vais avoir pu questionner pour dire ce qu'il en retourne à nos auditeurs. Sauf que là, je peux vous dire que on nous arrive avec des informations comme ça, brouche que brouche, et là, c'est comme, allez-y, let's go, posez-nous vos questions. C'est difficile, je vous le dis, là, je vais vous donner un seul aspect, l'aspect de la circulation, parce que je pense que c'est l'aspect qui va toucher davantage les gens, et c'est ça là-dessus, ce sur quoi j'ai posé les questions, parce que c'est la première fiche synthèse, et c'est la seule que j'ai eu le temps de parcourir pendant les 20 minutes de la conférence de presse.
Oui, vas-y.
Sur la circulation. Bon, on a appris de la bouche de Rémi Normand, qui est le responsable du dossier, vice-président au comité exécutif, qu'il va y avoir 4 travaux, 4 chantiers en parallèle du chantier du phare dans ce secteur-là. Sachez que pour l'année 2020-2021, il va y avoir des travaux sur Hochelaga, quatre bourgeois. Il va y avoir des travaux sur la Vigerie et sur de l'Église, qui sont quatre artères majeures dans le secteur.
Pas simultanément?
Simultanément. En plus du chantier du phare qui va se faire, qui est un chantier qui est majeur. Donc, il va y avoir...
Donc, il va falloir faire le troisième lien avant qu'il fasse ça. Si on veut éviter... Ça va bloquer complètement ce secteur-là.
Myriam est ma championne.
Donc, j'ai adressé la question à Rémi Normand, de même qu'au maire Labeaume, à savoir, mais il n'y aurait pas eu une autre façon de faire, essayer que ça ne soit pas tous concomitants que ces travaux-là. Voici les réponses que l'on m'a formulées.
On l'a vu, là, il va y avoir deux années difficiles, tu comprends? Et déjà, par la suite, ça va changer. Mais une fois qu'on a dit ça, on a quand même des axes importants à forte capacité, comme le boulevard Laurier, qui vont rester accessibles durant les travaux de préparation avant l'arrivée du tramway. Donc, ça va être une couple d'années difficiles, mais on va retrouver assez rapidement la fluidité qu'on a présentement.
D'ailleurs, le résultat, c'est que la fluidité est améliorée à la suite des travaux, par rapport à la situation existante. C'est ça quand on construit. Si on construit pas, on n'améliore rien.
Non, je comprends, mais que ce soit concomitant, le début du chantier du phare et ces travaux-là, ça risque pas d'aggraver le problème?
On va s'organiser, il y a un paquet de mesures qui vont être prises pour faciliter la vie des gens. Mais je le répète, là, une fois l'œuvre terminée, on améliore la situation par rapport à la situation actuelle. Les travaux, c'est toujours ça, sinon on fera rien. T'sais.
Non, mais c'est parce que tu peux faire Hochelaga d'abord, Laurier ensuite.
Mais ça dépend de ton échéancier aussi.
Et sachez que quand ça va être terminé sur Hochelaga et quatre bourgeois, de même que sur de l'Église, là, ça sera les travaux sur Laurier qui vont commencer. Donc, il y a vraiment un échéancier là, qui nous a été donné jusqu'en 2029. Donc, il va y avoir des travaux dans ce secteur-là à une artère ou l'autre et parfois sur quatre artères en simultané. Donc, ça nous a été mentionné. Et là, j'ai voulu savoir quel était l'impact sur la circulation au terme des travaux, de même que durant les travaux de construction qu'il y aura. Et là-dessus, il a fallu à la toute fin que je parle avec Marc Desrivières, qui est responsable du dossier du transport à la Ville de Québec, pour savoir à quoi ça va ressembler. Parce que dans la fiche synthèse qu'on nous a donnée là, sur l'impact et la circulation, on nous donne des chiffres, des indices de performance du réseau routier.
Mais Marc Desrivières, c'est un fonctionnaire.
C'est un fonctionnaire. Mais là, on nous donne des chiffres, mais ces chiffres-là, ça, c'est pas du temps, combien de temps de plus que ça va prendre aux automobilistes. C'est pas non plus le nombre d'automobilistes qu'il va y avoir de plus dans le secteur. On n'a rien de ça. On nous a dit, allez fouiller l'étude, là, vous allez trouver ça. Mais je vous inviterai à écouter ce que Marc Desrivières, je lui ai demandé, pouvez-vous quantifier d'une autre manière, que ce soit en pourcentage, quel sera l'impact pour les automobilistes?
Entre aujourd'hui et 2029, on peut penser que les conditions de circulation devraient s'améliorer de l'ordre de 15 à 20 %.
Mais en 2022?
En 2022, là, on a une détérioration de l'ordre d'à peu près 15 %.
Et tout ça, c'est selon s'il y a un transfert de part modale. Transfert de part modale, c'est des gens qui décident de changer, passer de l'auto au transport en commun.
OK. Sauf que ça, ils ont déjà dit qu'avec le tramway, ce serait 2,5%.
Tu te trompes. Dans ce secteur, ils estiment que ce sera de 10,5% le transfert modal.
OK. Le global, ça va être 2,5%, mais ils pensent qu'à cet endroit-là, en écœurant bien les automobilistes, en faisant les travaux sur toutes les rues en même temps, ils vont arriver à en convaincre 10%. C'est ça?
Effectivement. Et là, pour le nombre de véhicules qu'il y aura de plus dans ce secteur-là, on nous a dit que le matin, à l'heure de pointe, il devrait y avoir 800 véhicules de plus en raison de la construction du phare. Le soir, 750 véhicules de plus. Et qu'on ajoutera à ça également 450 véhicules de plus pour d'autres projets qui sont dans les cartons, dans le secteur de la tête des ponts.
Et on va les passer où?
Ben là, on nous a dit qu'on était pour élargir certaines artères. Sur la Vigerie, on va passer de 4 à 5 voies. Donc, c'est comme ça qu'on nous l'explique.
La Vigerie, ça, c'est nord-sud.
Oui.
OK.
Et qui passe juste à côté du phare.
Et l'est-ouest, on a Hochelaga, Laurier.
Oui. Et quatre bourgeois.
On fait des travaux sur les trois en même temps.
Pas sur Laurier en même temps que sur les deux autres. Mais je vous le dis, là, ça risque d'être extrêmement pénible dans ce secteur-là quand les travaux vont commencer en 2020.
Il va y avoir des séances d'information? Ouais.
Séance d'information, les deux qu'il y aura, ce sera le 29 octobre à l'édifice André-Péboucher, l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, de même que le 30 octobre, donc 29 et 30 octobre à 19h. Et la séance de consultation, elle, aura lieu le 21 novembre à 19h. Bien évidemment qu'on va suivre la situation pour vous et qu'on se présentera lors de ces rencontres.
Les documents que vous avez eus ce matin, sont-ils rendus publics? Est-ce que le citoyen ordinaire qui habite ce coin-là ou qui passe par ce coin-là peut s'en prévaloir?
C'est disponible actuellement sur le site web de la Ville de Québec au ville.québec.qc.ca/projet Le Phare. Et là, vous allez avoir l'ensemble des études. J'aurais aimé ça pouvoir avoir le temps de les passer en revue l'une après l'autre, mais je ne suis pas en mesure de vous en dire plus.
Mais là, Labo m'a dit, on se revoit plus tard aujourd'hui. Pourquoi?
Ah oui, il va y avoir une conférence de presse sur la main-d'œuvre cet après-midi à 15h.
Ah bon? Donc, alors, d'ici là, vous pouvez vous préparer.
il fait une conférence. Pourquoi l'urgence de cette conférence-là? Pourquoi convoquer à 8h le matin?
Regardez, je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. On lui a pas posé la question. Okay. Peut-être que c'est l'histoire là, de cette étude sur le troisième lien. Il voulait éviter que ce soit ça que l'on parle uniquement dans les médias. Regardez. Et j'y vais là, d'une hypothèse. Je ne suis pas en mesure de vous dire que c'est clairement ça parce qu'on ne lui a pas posé la question ce matin.
OK.
Moi, je pense que c'est assez secondaire, mais le fait est que laissez-moi vous faire un plaidoyer qu'il faut faire. La ville de Boston, qui est une des villes intéressantes d'Amérique du Nord, pendant à peu près 12-13 ans, tout son centre-ville a été presque paralysé par des travaux gigantesque. Je me souviens pas, mais je pense que c'est de l'ordre de 30 milliards de dollars. Ils ont défait ce qui était l'équivalent des boulevards surélevés. Ils ont fait des tunnels. Ils ont fait toutes sortes de trucs. Et la ville a été, pour y avoir été pendant les travaux, puis après les travaux, la ville a été paralysée, littéralement. Ouais. Mais il n'y avait pas de gens à Boston qui se plaignaient à part au jour le jour et au quotidien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit Boston comme une des agglomérations urbaines les plus modernes, tout en ayant gardé son cachet ancien. C'est une réussite extraordinaire ce qui a été fait à Boston. Mon plaidoyer est le suivant. Laisse-moi finir, Myriam, tu prendras toute la parole après. Mon plaidoyer est le suivant. Québec est une ville en pleine expansion. C'est une ville en croissance extraordinaire. Il faut le rappeler aux gens, c'est probablement per capita la ville de cette importance, 500 000 et plus, la plus riche, pas du Québec, du Canada. Et pour qu'elle continue sur sa lancée, il doit y avoir des projets de cette envergure-là, parce qu'une ville qui est en croissance comme Québec l'est, tu peux pas arrêter sa croissance, elle va étouffer. Il faut capitaliser là-dessus, et les embarras que ça va créer, les inconvénients, ça vient avec. Alors, j'ai terminé, Myriam, à toi.
OK. Il y a moyen de faire tout ça. D'abord, pour ce qui est de Boston, moi, je suis allé à Boston dans la période où il y avait beaucoup de travaux, là, puis c'est pas vrai que les gens chialaient pas. Il y avait même, dans les boutiques de touristes, des cartes.
Ils chialaient un peu.
Ils avaient même commercialisé des cartes pour rire de la situation tellement elle était chaotique.
Il n'y a plus personne qui s'en plaint aujourd'hui, Myriam.
Non, mais pendant que ces travaux-là se font, les Bostonais, comme les gens de Québec, se demandaient, il n'y aurait pas pu faire ça un petit peu mieux. Juste pour pas écœurer les gens qui sont déjà à Québec. Je comprends qu'on va en faire venir des nouveaux, là, mais juste pour pas écœurer le peuple. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de faire les choses de manière à ce que ceux qui sont là n'écœurent pas le peuple? Et ce qu'on soupçonne, et c'est une des choses qui revient, puis si tu parles à nos auditeurs, ils vont te le dire. Ce qu'on soupçonne, là, c'est qu'on essaye d'écœurer l'automobiliste pour le forcer à prendre le transport en commun au lieu de rendre le transport en commun attractif.
Je crois pas ça un seul instant. Je crois qu'on veut avoir un très grand projet pharaonique à l'image d'une ville en pleine expansion. C'est ça que je pense, puis le reste, ben, ça ressemble plus à nos fantasmes qu'autre chose.
Je te ferai jaser un petit peu avec nos auditeurs, tu vas voir, là, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'on a décidé d'écœurer le peuple.
Moi, je suis
d'accord pour qu'on fasse une grande tour, OK? Je suis d'accord pour qu'on fasse des travaux. Je suis d'accord pour le tramway, même si je pense encore qu'on aurait été mieux avec un métro. Bon, mais ceci dit, on peut-tu faire tout ça sans essayer de tout faire en même temps puis d'écœurer les gens?
C'est parce que plus tu étends ça dans le temps, moins les choses se font.
Pourquoi ça serait pas?
Parce que des projets sur 20 ans, il n'y a pas d'investisseur pour ça. Voyons, c'est ça l'affaire. Un investisseur, ça pense au maximum sur 10 ans. Il n'y a pas d'investisseur qui pense sur 20 ans. Quand tu penses à un projet comme celui-là,
ça va pas bien,
que tu l'exécutes en 10 ans, puis ça donne que ça va faire 10 ans quand il va être fini.
Ça va pas bien parce que la Ville vient de payer une étude pour démontrer qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit dans 20 ans au Québec.
Non, là, c'est pas tout à fait vrai, Myriam. C'est pas tout à fait vrai.
14 ans.
C'est pas tout à fait vrai, puis tu le sais en plus.
Bon, et sur cette étude, à propos du troisième lien du bureau de projet qui a été commandé à la firme WSP, M. Labombe nous a expliqué justement comment ça s'était passé. On a eu une offre en février, on a confirmé tout ça en mars, et là, on a passé toutes les étapes. Puis nous autres, on voulait avoir des informations, on voulait vérifier nos hypothèses. C'est comme ça qu'il l'a dit. Je vous inviterais peut-être à écouter les échanges que ça donnait tout à l'heure, parce qu'on a voulu savoir qu'est-ce qui en retournait de ça, qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message à la population. Donc, voici les échanges que ça donnait entre les journalistes et M. Labombe.
Maintenant, pour ce qui est du contenu, moi, j'ai rien à dire ce matin. Je vous le dis tout de suite, là. Je vous réponds à ce pourquoi on l'a fait, ce pourquoi on l'a demandé, comment ça a été rendu public. C'était totalement transparent. Pour le contenu, ce matin, moi, j'ai rien à répondre là-dessus.
Mais Jonathan Julien était au courant, comme il était là en mars.
Oui, il était au courant de l'étude. Ouais.
Mais vous n'en avez pas discuté, par exemple, avec François Legault à l'occasion d'une rencontre
non.
ou des représentants caquistes,
non.
jamais?
On a gardé ça pour nous autres. On aurait pu sortir, mais on a décidé. Premièrement, c'était pour nous autres à l'interne.
Pourquoi, certaines fois, vous rendez public officiellement une étude et d'autres fois, comme celle-là, vous le gardez pour vous, alors que ça confirme un peu vos dires? C'est pas la première fois que vous dites
c'était pas nécessaire, puis il y avait une élection qui s'en venait. On pensait que c'était pas une bonne idée, là. Alors, c'est important qu'on garde ça à l'interne parce qu'on ne voulait pas intervenir dans la campagne. Ça aurait été très maladroit.
À la lumière de ces réponses-là qui sont données dans l'étude, qu'est-ce que vous voulez dire à la population à ce sujet?
J'ai rien à dire à la population parce que ce n'est pas mon projet, moi. Je peux parler à la population du projet de réseau de transport structurant. Moi, je ne peux pas. J'ai rien à dire à la population.
Et sur les 10 ans qui sont nécessaires en études préliminaires avant...
Oui, mais là, vous tombez dans le contenu et j'ai dit que je n'en parlerai pas. Désolé.
Il a commandé une étude, mais il veut pas la commenter.
Mm-hmm.
Il la rend publique en disant c'est pas mon dossier, donc je commande pas.
Et en mentionnant clairement dans son laïus, là, qu'on n'a pas là, dans l'extrait, que Jonathan Julien était au courant et que c'est lui qui a approuvé. Jonathan Julien, qui, je vous le rappelle, a claqué la porte d'équipe Labombe et qui est maintenant député pour la Coalition Avenir Québec.
Et probablement ministre.
On verra bien.
On verra jeudi. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on va revenir après les nouvelles, parce que le maire Le Houlier de Lévis va probablement réagir au fait que ses homologues de Québec ont payé une étude pour se faire dire que c'est pas possible avant 14 ans.